Chers auditeurs et chères auditrices, bonjour. Nous continuons notre très importante série concernant de la poussière à la gloire. Nous arrivons à l'étude numéro 6 et le titre sera « Le réveil de l'hôtel d'or ». C'est-à-dire le chemin de retour vers le Seigneur. Il est dit dans 1 Thessaloniciens 4, verset 10, verset 15 à 18, verset 15 à 18 de 1 Thessaloniciens, chapitre 4. C'est Paul qui parle. Ces temps de réveil portent à son point culminant la restauration de l'Église. L'Église glorieuse sera accueillie par son époux lors de l'événement décrit par l'apôtre Paul, et je répète en 1 Thessaloniciens, chapitre 4, versets 15 à 18. Ce travail de préparation n'est pas récent. Le Seigneur institua ces temps de restauration pendant la génération de Martin Luther, et cela plusieurs siècles en arrière. Le Seigneur commença d'agir souverainement sur terre à cette époque-là. Systématiquement, il se mit à restaurer les grandes vérités fondamentales du Nouveau Testament, ces vérités qui furent perdues pendant les 1000 années connues sous le nom de l'âge des ténèbres ou le haut Moyen-Âge. Le christianisme était alors devenu païen en principe et en pratique. La grande vérité fondamentale, le fondement même du christianisme, fut rétabli lors du réveil au temps de Martin Luther. On peut dire ce qu'il a dit d'une façon formidable et inspirée par l'Esprit Saint, c'est que le juste vivra par la foi. Le juste vivra par la foi. Ça, c'est la pierre d'angle de la théologie néo-testamentaire. Nous sommes sauvés seulement par grâce, et cela par la foi, à cause de l'œuvre expiatoire de notre Sauveur et Seigneur, Jésus-Christ. Dans l'Ancien Testament, qui est une ombre du Nouveau Testament, le Seigneur a donné à Moïse un modèle pour le tabernacle. Chaque meuble à l'intérieur du tabernacle, ainsi que son emplacement, répondait au modèle qui avait été donné à Moïse. Le Seigneur le décrit comme étant le chemin par lequel nous devions nous approcher de lui. C'est l'accès au Saint des Saints, selon Hébreux, chapitre 9, verset 8. L'homme avait vraiment péché à outrance et avait attristé l'Esprit Saint de Dieu, et ce mobilier traçait le chemin du retour à Dieu. La route dans sa totalité, oui, cette route, c'est de la poussière à la gloire. De l'autel des holocaustes ou d'airain situé à l'entrée du parvis jusqu'au propitiatoire à l'intérieur du voile, chaque point où officiait le sacrificateur parle de vérité néo-testamentaire, du message de l'Évangile. Le tabernacle et son mobilier reflètent la progression du juste sur le chemin qui est celui de Dieu, celui qui conduit jusque dans sa présence, là où il est assis sur le trône de gloire, la gloire Shekinah qui est manifestée dans le tabernacle de Moïse. Elle n'était qu'un simple rayon de gloire par rapport à la gloire émanant de son trône céleste de gloire. Il y a une analogie entre l'usage du mobilier dans le tabernacle de Moïse et les grands réveils de ces cinq derniers siècles. Comment cela? Eh bien, voyons cela ensemble. La première pièce de ce mobilier fut l'autel d'airain. C'est là que furent offerts et sacrifiés des animaux. Ceci est une image du calvaire et de la justification par le sang de Jésus, par la grâce de Dieu. Ce principe de base de la foi chrétienne fut perdu pendant des siècles et a été rétabli au temps de Luther. C'est là que commença, on peut dire, la restauration connue sous le nom de réforme. Dieu nous redonna cette vérité symbolisée et préfigurée par l'autel de bronze. Puis il y avait la cuve d'airain. Les prêtres devaient s'y laver avant d'accomplir tout acte de culte. Ils ne pouvaient rien faire avant que ne fût accomplie cette purification. La cuve et les ablutions nous parle de la sanctification nécessaire pour le service de Dieu. Les grands principes de la sanctification furent rétablis pendant le réveil du temps des frères Wesley. C'est alors que Dieu nous redonna le principe symbolisé et préfiguré par la cuve d'airain. Dans le tabernacle, il y avait ensuite le chandelier. Celui-ci représente le Saint-Esprit. Dieu rétablit le chandelier au cours des réveils classiques de la Pentecôte. Et puis, on trouvait la table des pains de proposition. Ces pains frais furent présentés devant le Seigneur sur cette table le jour du sabbat et il y restait jusqu'au sabbat suivant. Ils furent alors remplacés par du pain frais et le pain sec étant mangé par l'assemblée des prêtres. Cela s'appelait le pain de sa présence. Cette assemblée des prêtres dans la communion fraternelle et le saint repas parle des réveils charismatiques dans lesquels ou dans lesquels des chrétiens de toute dénomination, de toute couleur, culture et nation participent dans l'unité à la présence de Dieu par son Esprit Saint. Dieu nous a redonné la table des pains de proposition. Il reste une seule pièce du mobilier dans le tabernacle avant d'arriver à l'arche de l'Alliance en dessous du propitiatoire. Cette pièce, c'est l'autel d'or. l'autel d'or ou l'autel des parfums se trouve devant le propitiatoire, lequel représente le trône de Dieu. Ainsi, le rétablissement de la vérité, représenté par l'autel des parfums, nous place directement devant le trône. Ça, c'est la démarche finale de l'Église avant d'entrer dans la gloire devant le trône de Dieu. J'aimerais insister là-dessus. Cette dernière pièce de mobilier du tabernacle représente la dernière grande vérité devant être révélée. Dans le passé, la révélation de chaque vérité est venue dans le feu du réveil. Le prochain réveil sera le dernier avant que nous nous trouvions devant le trône de Dieu représenté par le propitiatoire. Tout cela indique ce jour parfait rempli de lumière qui se trouve au bout du chemin du juste. C'est le jour parfait où un peuple restauré sortira d'une dimension pour entrer dans celle de la gloire Shekinah, la dimension où on le verra face à face. La question se pose maintenant. Que préfigure l'autel d'or? Que sera l'ultime réveil? Qu'y a-t-il en nous qui doivent encore être restaurés? Que pouvons-nous savoir de cet événement à venir? En fait, nous pouvons en savoir beaucoup. L'étude minutieuse d'une ombre peut nous en dire long sur la nature de l'objet initial. L'autel d'or était donc l'autel destiné à l'offrande de l'encens. De quoi cela nous parle-t-il dans le Nouveau Testament? C'est dans le livre d'Exode, au chapitre 30, que l'on voit la première allusion à cet autel. Le modèle et toutes les indications furent données à Moïse. Il était placé tout de suite devant l'arche et le propitiatoire. Ainsi, il est appelé l'autel très saint. Seul Aaron et ses fils avaient le droit de se servir de cet autel. Il était inaccessible aux sacrificateurs lévitiques. Les souverains sacrificateurs ne pouvaient l'utiliser que pour brûler de l'encens. Une seule sorte de parfum pouvait être brûlé sur cet autel. Exode chapitre 30, verset 9. Il est dit: Vous offrirez sur l'autel ni parfum étranger, ni holocauste, ni offrande, et vous n'y répandrez aucune libation. Que veut dire cela pour nous aujourd'hui? Avant tout, c'est un autel destiné à l'encens. À travers les Saintes Écritures, l'encens représente toujours la prière et l'adoration. Je répète, à travers toutes les Saintes Écritures, l'encens représente toujours la prière et l'adoration. Toute prière est comparée à la fumée de l'encens s'élevant depuis l'autel. La prière, la véritable prière, est comme de l'encens pour Dieu. Cet autel représente la vie de prière et de louange du croyant. Dieu nous dit, il nous dit quelque chose au moyen de cet autel d'or. Il représente le nouveau actuel, c'est-à-dire le renouveau actuel de la prière d'intercession. Donc, il représente le renouveau d'adoration dans lequel nous nous trouvons. Il parle aussi du règne de Dieu vers lequel nous allons. L'autel d'or du tabernacle de Moïse, c'est le modèle exact de celui qui se trouve au ciel. Nous voyons cet autel dans Revelation, Apocalypse chapitre 8, versets 3 à 5. Il est dit « Et un autre ange est venu pour se placer sur l'autel. Il tenait un encensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums pour les offrir avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or devant le trône. La fumée des parfums monta avec la prière des saints de la main de l'ange devant Dieu. L'ange prit l'encensoir, le remplit du feu de l'autel et le jeta sur la terre. Et il y eut des tonnerres, des voix et des éclairs et un tremblement de terre. Quoique cet autel soit au ciel, il nous faut comprendre que chaque fois que nous prions dans l'esprit ou par l'esprit, nous nous trouvons en vérité devant cet autel. Nous sommes plus que la chair et le sang de nos corps physiques. Oui, nous sommes aussi esprit et âme. Une partie de nous, notre homme spirituel, n'est pas limitée à cette terre. Et lorsque nous nous impliquons dans la véritable intercession, nous adorons là, spirituellement. Cet autel, c'est donc le lieu où montent et sont gardées les prières des saints. L'ange de l'autel veille sur toutes choses. Toutes les prières n'arrivent pas forcément sur cet autel, seules qui sont ferventes, sans aucun égoïsme et remplis de compassion, peuvent y parvenir. Cet autel, c'est celui où montent les prières pour les âmes perdues et pour celles qui souffrent. Son amoncelés sont donc là, amoncelés sur cet autel. Carrément toutes les prières qui ont été faites avec amour par tous les saints, et tout cela pour ceux qui sont perdus, pour qu'ils puissent être sauvés. Les prières des saints de tous les temps se trouvent donc là. Il nous est indispensable de comprendre la nature éternelle de la véritable prière. Aucune n'est perdue. Quoique la promesse ait pu tarder, aucune ne restera sans réponse. À travers les siècles, nombreux sont ceux qui ont pleuré devant cet autel en demandant un exaucement de la part de Dieu. Beaucoup sont morts sans avoir vu cette réponse à laquelle ils aspiraient pourtant. Leurs prières, elles sont protégées par l'ange qui est toujours présent. Bientôt le Seigneur donnera le signal à l'ange et celui-ci jettera sur terre le feu de ses saintes prières, des charbons ardents d'aspiration humaine, des larmes qui ont été versées par des générations passées dont le cri était « que ton règne vienne et que ta volonté se fasse sur la terre. De cet autel, né de la prière d'intercession des saints, jaillira le plus grand réveil de tous les temps. Tous ceux qui auront prié pour les perdus et qui auront supplié le Seigneur de fendre les cieux et de descendre pour un authentique réveil, auront leur part dans ce mouvement ultime. Je répète, tous ceux qui auront prié pour les perdus et qui auront supplié le Seigneur de fendre les cieux et de descendre pour un authentique réveil, auront leur part dans ce mouvement ultime. Ils auront leur part d'héritage parmi les nations venues à Christ. Dieu est fidèle et juste, et il n'oubliera aucun acte d'amour. La prière pour les perdus est un investissement éternel du temps présent. Je répète, la prière pour les perdus est un investissement éternel du temps présent. Notre compte de prière est bien tenu là-haut, au ciel. Chacun de nous doit avoir sa portion sur cet autel. Puisse Dieu vivifier notre vie de prière afin que cela devienne de plus en plus évident. Quoique l'autel d'or soit un autel de prière volontaire, il dépeint également le réveil final des temps de la fin. Comme chaque objet nous a enseigné une vérité, quelle est celle que révèle ce dernier objet? Que révèle-t-il du dernier réveil? Chers amis, au cœur même du prochain réveil sera l'adoration. C'est la dernière des nombreuses étapes ayant élevé un peuple toujours plus haut spirituellement vers cette image majestueuse qui a été décrite dans Revelation, Apocalypse, chapitre 5. Nous devons être préparés par Dieu pour la gloire du trône dans le ciel. Et cela fait des siècles qu'il y œuvre. Tout cela dans un but, c'est-à-dire celui de la gloire de son trône. Apocalypse chapitre 5 nous montre à quoi ressemble le ciel. C'est un lieu de louange intense, des multitudes élevant leur voix dans un cantique sans fin pour honorer Dieu. Nous voyons les rachetés au milieu des innombrables êtres célestes et des anges. La louange est assourdissante. Elle monte comme des vagues d'adoration sous une onction d'une telle intensité que seuls des corps glorifiés peuvent la supporter. Voilà donc l'atmosphère dans le lieu où se trouve le trône. L'intervention suprême de l'Esprit de Dieu sera de nous préparer à cette nouvelle dimension dans laquelle nous entrons bientôt. Si vous avez l'Internet, alors s'il vous plaît, cherchez www.bibleexplique.ch et écoutez, s'il vous plaît, le témoignage de Marietta. Dans le livre de Amos, au chapitre 9, verset 11, et dans Actes des Apôtres, chapitre 15, verset 16, il est parlé prophétiquement de ces temps-là. La prophétie d'Amos, citée par Jacques dans Actes chapitre 16, déclare qu'il y aurait une restauration du tabernacle de David. Dans l'histoire d'Israël, l'époque du tabernacle de David dura environ 40 ans. Elle débuta lorsque David ramena à Jérusalem l'arche de l'Alliance depuis la maison d'Obed-Édom. David la plaça dans une grande tente sur la montagne de Sion. Dans le tabernacle de David, il n'y avait pas de voile pour cacher la vue de l'arche comme il y en avait dans le tabernacle de Moïse. David mit en place des Lévites, hommes et femmes, pour garder continuellement et pour honorer la présence de Dieu dans l'arche. Les Lévites furent regroupés par équipe pour le service et le culte, et l'arche n'était jamais laissée seule. L'adoration allait de gloire en gloire, 24 heures sur 24, pendant 40 années. Durant cette période, elle croissait pour atteindre un niveau jamais retrouvé depuis. Les collines de Juda retentirent des sons glorieux venant du tabernacle de David. Le peuple louait en présence de l'arche pour la première fois et cette louange montait d'un degré à un autre. Nous arrivons maintenant à la restauration du tabernacle de David. Ce lieu de gloire sur la montagne de Sion à Jérusalem, appelé le tabernacle de David, était cher au cœur de Dieu. Aux yeux des hommes, cela avait l'apparence d'une simple tente. Mais pour Dieu, c'était comme un palais. Nous lisons au psaume 78, versets 68 et 69. Mais Dieu choisit la tribu de Juda, la montagne de Sion, qu'il aima, et il bâtit son sanctuaire comme des lieux très hauts, comme la terre qu'il a fondée pour toujours. Le tabernacle de David était spirituellement un palais. C'était un temple construit non pas de pierre, mais de chair. Pour la première fois, l'arche de Dieu était entourée d'adorateurs. Il n'était pas caché par des voiles, et pourtant personne ne mourait au contact de cette gloire. Ce tabernacle préfigure l'acte final lorsque Dieu descendra des cieux de façon surnaturelle pour demeurer dans le corps préparé, l'Église, pendant une brève période. De même que les adorateurs dans le tabernacle furent transférés au glorieux temple de Salomon, ainsi les adorateurs des temps de la fin seront ravis dans la gloire du temple de la Jérusalem céleste. Chers amis, par la louange, ses ennemis puissants furent liés. Le psaume 149 nous dit avec précision que vous pouvez lier les rois avec des chaînes et leurs dignitaires avec des entraves. Au jour du tabernacle de David, Dieu prenait plaisir aux petits Lévites demeurant toujours auprès de lui, pénétrant nuit et jour, toujours plus intimement en sa présence. Ils élargissaient leur capacité pour être sensibles à la gloire de Dieu, montant ainsi graduellement à un puissant niveau d'onction. Dieu pouvait donc demeurer au milieu de leurs louanges à un degré jamais connu par un autre groupe d'êtres humains. Notre autorité spirituelle dans le combat de la prière est à son apogée lors d'une telle louange. Le psaume 22, verset 4, que nous traduisons souvent par « tu sièges », nous disons « tu sièges au milieu des louanges d'Israël ». C'est en réalité, selon l'hébreu, « tu es assis sur le trône dans nos louanges ». Je répète, normalement, le psaume 22, verset 4, il est dit « tu sièges au milieu des louanges d'Israël ». Mais en réalité, selon l'hébreu, il est dit « tu es assis sur le trône dans nos louanges ». La majesté de la présence de Dieu sur son trône peut donc se manifester parmi nous alors que nous libérons notre louange afin qu'elle grandisse spirituellement. Nous parvenons finalement à une louange si pure et si parfaite qu'elle devient une louange de couronnement. Jésus a dit « Levez les yeux et regardez la moisson » dans Saint Jean, chapitre 4, verset 35. Partout, des églises lèvent les yeux, regardent avec compassion ceux qui sont perdus et agissent en conséquence. Quand une église est repliée sur elle-même, jamais ses problèmes internes et son mécontentement ne seront résolus. Plus un groupement est centré sur lui-même, plus il y aura un manque d'unité. L'esprit ne peut jamais cheminer avec la chair. Ésaïe 52, verset 7 parle d'un peuple avec des beaux pieds se tenant sur la montagne pour apporter de bonnes nouvelles du salut. Ésaïe dit que ce peuple verra face à face. Il y a donc un nouvel intérêt porté aux missions dans toutes les missions dans le monde, mais ce n'est là qu'un petit début de ce grand et dernier mouvement à venir. Chers amis, nous connaissons tous l'aspect et la nature de l'agneau dans laquelle Christ s'est manifesté lors de sa première venue sur terre. Il est venu tel un agneau, et il est mort comme l'agneau de la Pâque. Mais attention, quand Jésus-Christ reviendra, il sera le lion de la tribu de Juda. C'est le côté de sa nature qui fera la guerre à ses ennemis. Joël chapitre 3 verset 16 nous dit que l'Éternel rugira d'en haut et de sa demeure sainte, il fera entendre sa voix. Or cela nous concerne tous, nous, son peuple, nous sommes sa demeure. Jésus-Christ veut que nous rugissions contre ses ennemis. Bien avant son retour physique et visible sur le mont des Oliviers, Jésus-Christ possède de jeunes lions au travers desquels il veut rugir sa sainte indignation. Il possède un peuple accomplissant les jugements prononcés depuis longtemps, mais qui n'ont jamais été mis en application par nous, son peuple. Par ses souffrances, il a payé le prix afin que toute œuvre des ténèbres soit détruite. Nous devons donc lui permettre d'accomplir cela à travers nous, à travers de vous, nous devons proclamer sa sainte parole. Nous devons condamner les œuvres sataniques et ténébreuses comme étant des actes illégaux. Nous exécutons verbalement ce que Jésus a déjà accompli. Jésus nous appelle à l'heure actuelle à agir avec plus de hardiesse spirituelle. Les justes sont forts comme des lions. Le psaume 149, verset 5 jusqu'au verset 9, nous dit ceci. Que les saints se réjouissent de la gloire qu'ils exultent avec chants de triomphe sur leur lit. Les louanges de Dieu sont dans leur bouche et une épée à deux tranchants dans leurs mains. Et cela pour exécuter la vengeance contre les nations et des châtiments au milieu des peuples, pour lier leurs rois de chaînes et leurs nobles de sceptres de fer, pour exécuter contre eux le jugement qui est écrit. Cette gloire est pour tous les saints. Louez donc l'Éternel. Oui, cette gloire est pour tous les saints. Tous y ont part. Ce n'est pas que pour une certaine élite. Tous les saints devraient exercer ce privilège. Le ciel tout entier s'y attend. Toute la création soupire après cela. Le jeune lion glapit, mais il doit apprendre à rugir. Ce glapissement se transforme en rugissement alors qu'il grandit, puis remplit les nuits africaines du son de sa fureur. En tant que jeune lion, semence du grand lion lui-même, c'est-à-dire de Jésus-Christ, il a été absent de notre vie de prière, mais maintenant, les violents vont s'emparer du royaume par la violence de leur prière. Un son nouveau va se faire entendre, les jeunes lions commence à rugir. Ce rugissement croîtra de plus en plus jusqu'à ouvrir le ciel, libérant ainsi les lieux célestes de l'emprise des esprits méchants. Alors viendra le prochain réveil. Chers amis, puissions-nous, nous, vous et moi, voir le Seigneur comme Seigneur de tout, comme l'avait vu Ésaïe. Puissions-nous être touchés comme l'a été Ésaïe. Nous avons besoin d'être touchés par les charbons ardents avant de pouvoir le porter aux nations. Puisse ce feu susciter le réveil dans nos propres âmes. Alors, lorsque nous parlerons, ce feu jaillira pour enflammer les vies d'autrui. Ésaïe n'a pas pu voir Dieu que après la mort du roi Ozias. Que Dieu ôte donc de notre vision tout roi et toute circonstance occupant notre attention. Que nous soyons réellement touchés par les âmes afin d'intercéder avec une sainte ferveur. Lorsque cette sorte de prière s'élèvera comme un parfum de cet autel devant le Seigneur, soudainement, le réveil le plus radical, le plus glorieux de tous les âges, explosera sur les nations. En terminant cette étude, sachez que une fois par année, au jour du grand pardon, le souverain sacrificateur aspergeait 7 fois du sang sur l'autel des parfums. Le chiffre 7 est le chiffre parfait. Donc, pendant ce mouvement final, l'Église et le monde connaîtront l'effet purificateur et libérateur du sang de Jésus plus profondément que jamais jusqu'ici. Dans le livre de Joël, au chapitre 2, verset 32, là il est dit que quiconque invoquera son nom sera sauvé. Je répète, Joël chapitre 2, verset 32, quiconque invoquera son saint nom sera sauvé. La purification des péchés les plus honteux, la guérison des maladies les plus graves, l'expiation des pires perversions, tout cela est le partage de celui ou celle qui invoque maintenant son saint nom. Dieu se lève avec la guérison dans ses ailes. Puisse le Saint-Esprit accomplir une œuvre radicale de purification parmi son peuple, ôtant toutes les rides et les taches, car sa gloire descend sur sa sainte demeure. Nous avons vu dans Ésaïe chapitre 4 que tous ceux qui feront l'expérience de ce temps de purification seront appelés saints, et ceux qui sont saints seront totalement couverts par sa gloire. Prions ensemble juste la prière suivante, s'il vous plaît. Viens, ô Esprit Saint, asperge-nous cette fois encore de son sang précieux. Purifie-nous cette fois encore de notre péché et de notre moi. Aide-nous à nous abandonner réellement à sa Seigneurie pendant ces temps de préparation. Amen. Amen. Et chers amis, merci pour l'intérêt que vous portez à ces études, pas toujours faciles. Et vous pouvez les réécouter. Moi-même, je dois, et je le répète, et j'ai honte de le dire, figurez-vous que autrefois, il y a longtemps, j'ai dû lire 3 fois l'évangile de Saint Jean pour comprendre, 1, que j'étais perdu, 2, que je devais accepter la main tendue de Jésus-Christ pour être sauvé. Or ma femme, beaucoup plus intelligente, elle a dû le lire qu'une seule fois. Donc si parmi vous il y en a qui sont presque aussi nuls que j'étais moi-même, rassurez-vous, je suis certain que si vous lisez 2 fois l'évangile de Saint Jean, il est impossible qu'il n'y a pas un miracle vie qui va donc se réaliser en vous et pour vous. Sachez que le Seigneur vous aime au-delà de toute imagination. Je vous aime également, mes chers amis, profondément, mais c'est incomparable avec ce que Jésus-Christ, qui a offert sa vie à la croix pour vous sauver, il le fait pour ceux qui ne le sont pas encore, maintenant même. À bientôt donc, mes chers amis, à demain matin, Dieu voulant, pour la suite de cette série. Au revoir.